Bonjour et bienvenue sur la radio du Grand Circuit. Cette émission est présentée et animée par Xavier Faure.
Tous les trimestres, le Grand Circuit Maîtrisé l'Amiante réunit les acteurs de la filière amiante pour ses conférences. La radio reprend les échanges intervenus lors de la table ronde d'ouverture. À la technique aujourd'hui, notre belle équipe avec Morgane Tudal, Benjamin Thaïs et Guillaume Plouin. Ce trimestre, nous apportons un éclairage particulier sur la difficulté à classer les travaux en sous-section 3 ou sous-section 4. En effet, le nouveau cadre réglementaire pour les repérages amiantes avant travaux et les évolutions constantes des règles de l'art en sous-section 3 complexifient les projets. L'accompagnement et l'information de la maîtrise d'ouvrage devient plus important encore. Les experts du bâtiment et de la prévention au travail nous apportent aujourd'hui leur éclairage. Cette émission a été enregistrée le 2 décembre 2019 à Paris. Installez-vous bien. Vous écoutez la radio du Grand Circuit.
Je vais appeler les intervenants de cette table ronde qui sont Alexandre Prantignac, vous êtes ingénieur service qualité de la construction et prévention à la FFB, Lionel Jeannot, président de la FIDI, Dominique Payen pour l'OPPBTP, où vous êtes responsable du pôle risques chimiques et environnement à l'OPPBTP, Bruno Janson, représentant du CIRTA, chef d'entreprise aussi, et Souila Paré, chargée de mission santé et sécurité au travail au CEDRE. Tu as fait l'ouverture. Je vous laisse prendre un micro. Là, vous avez, y a des micros. Prenez-les.
Alors, peut-être Lionel Jeannot, on peut commencer par toi pour la FIDI, parce qu'on en parlait tout à l'heure sur les repérages. Aujourd'hui, la certification, les compétences, j'ai peur qu'il faille faire un état des lieux parce que je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'il faut faire et à quel type de diagnostiqueur il faut faire appel, certifié ou pas, et est-ce qu'on fait les repérages avant travaux ?
Alors, je vais essayer d'être clair. En préambule, toute petite présentation de la FIDI. La FIDI, c'est la Fédération interprofessionnelle des diagnostiqueurs immobiliers. On est la plus grosse fédération rassemblant les opérateurs de repérage, qu'ils soient indépendants, en réseau ou des entreprises intégrées sur le territoire national. On a plus de 1000 diagnostiqueurs dans nos rangs. Pour revenir à ta question, alors, on a eu un été un peu, pour ceux qui sont en courant, un peu chargé, dans le sens où deux décisions du Conseil d'État ont suspendu des arrêtés assez importants. Le premier, qui était un arrêté de juillet 2016 relatif aux critères de certification, a été suspendu par une décision donc en juillet, donc suspendu en totalité, suivi d'une autre décision au Conseil d'État sur un texte que vous devez connaître, qui est l'obligation de repérage avant travaux pour tout type d'opération par des opérateurs certifiés. La conséquence, c'est que depuis cette suspension, le système de certification qui était nécessaire pour les opérateurs de repérage pour travailler a été suspendu. Et je vais revenir après sur la problématique de l'avant-travaux. Pour tout le système de certification, un nouveau texte est sorti au mois de novembre, le 8 novembre 2019, pour réintroduire cette obligation. Donc le système de certification pour les opérateurs de diagnostic est rétabli. Là où il y avait des vides juridiques sur tout le système certification sur l'ensemble des diagnostics est rétabli jusqu'au 1er janvier 2020, sur lequel un autre texte va reprendre le système. Donc là, ça, c'est un problème réglé. Pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, le repérage avant travaux. En juillet 2019, un texte précisant les maîtres d'ouvrage à réaliser des opérations de repérage avant travaux pour toutes leurs opérations est sorti. Une contestation auprès du Conseil d'État a suspendu deux articles, et notamment l'obligation des opérateurs certifiés avec mention. Donc, à ce jour, l'exigence de certification avec mention n'est plus une obligation pour faire ces repérages. La DGT a attendu que le DHUP sorte le texte de novembre 2019 pour sortir son texte et rétablir cette obligation. Donc, aujourd'hui, ce projet de texte existe. Il va être présenté à différentes commissions courant décembre, au comité d'organisation des conditions de travail, COCT, le 15 décembre. Et ce texte va, dès sa sortie, va remettre l'obligation de certification avec mention pour faire les repérages, avec une période transitoire, c'est-à-dire que cette période transitoire va permettre que des techniciens certifiés sans mention amiante pourront faire les avant-travaux jusqu'au 30 juin 2020. Après le 30 juin 2020, la certification avec mention sera obligatoire. Voilà le texte qui va sortir. Alors, dire la date, je ne peux pas vous la dire, mais qui est dans les tuyaux et qui va être actée.
Alexandre Prantignac, pour les entreprises, finalement, sur les repérages avant travaux, sur vous, au sein de la FFB, vous mobilisez les entreprises à la fois sous la sous-section 4 et sous-section 3. Quel est votre point de vue sur la manière dont les entreprises s'accaparent ce sujet ?
C'est complexe dans le sens où notre première action a été de diffuser ce que l'on appelle une info-réseau pour que les petites entreprises puissent appréhender cet arrêté du 16 juillet, donc qui oblige l'opération de repérage avant certaines opérations, et une clause de vie qui leur permet en effet d'intégrer la notion de certification, non pas certification opérateur, mais certification dans le cadre de la SS3, et en effet des clauses spécifiques à l'obligation qu'ont maintenant les donneurs d'ordre, propriétaires ou particuliers, de transmettre les repérages à monte. Donc en effet, la difficulté, elle réside sur le fait que les entreprises maintenant vont avoir des difficultés avec les particuliers, puisqu'en fait, dans l'ordre particulier, ont aussi cette obligation de transmettre ces rapports de repérage, et ça va être, c'est l'entreprise qui va apporter cette nouvelle, en fin de compte, qui, en gros, dans le cadre de travaux, va informer le particulier de son devoir de se transmettre le repérage avant travaux. Et en effet, l'impact est très important, donc on va se mobiliser pour améliorer, au titre que la DGT, comme la DGT l'a fait au Salon Amiante, de se mobiliser, de sensibiliser les particuliers, les collectivités, en fait, tous ces acteurs qui, à ce jour, étaient un petit peu en dehors du sujet et qui, maintenant, vont être directement appliqués.
Oui, parce que c'est les entreprises qui vont être fer de lance, finalement, pour la sensibilisation des particuliers, voilà, des maîtres d'ouvrage.
Ça va être l'entreprise qui va donner cette information d'obligation de repérage. Donc, les donneurs d'ordre les connaissent déjà, les collectivités aussi, mais il y a une grande partie des personnes qui sont amenées à déclencher des travaux qui, à ce jour, la problématique amiante n'est pas du tout connue. Ils en ont entendu parler, mais ce rapport de repérage, qui en effet est le déterminant dans l'analyse des risques des entreprises, c'est l'entreprise qui va apporter cette nouvelle d'obligation de transmission des rapports de repérage.
Alors, sous il apparaît pour le CEDRE, on fait tour d'horizon des différents intervenants, mais aujourd'hui, vous travaillez avec le CIRTA, donc peut-être vous allez parler en écho l'un par rapport à l'autre, avec Bruno Janson pour le CIRTA. Sous il apparaît, vous intervenez sur les règles de l'art sous section 3, parce que effectivement, on essaye d'uniformiser aussi la manière dont les entreprises interviennent, et ça c'est un enjeu important, c'est-à-dire on fait le repérage, et puis après il faut que toutes les entreprises interviennent près de la même manière sur les chantiers.
Alors tout à fait, nous travaillons actuellement avec le CIRTA sur un projet de rédaction de 14 règles techniques de sous-section 3, donc un projet qui a été soutenu par le PRDA. Donc l'objectif de ces règles-là, c'est d'uniformiser le travail des entreprises, mais aussi de donner les clés pour un raisonnement. C'est-à-dire que on uniformise la façon de travailler, mais l'entreprise reste libre quand même d'apporter son analyse de risque. Ces règles techniques ont pour vocation de répondre aux objectifs réglementaires tout en apportant toutes les solutions techniques pour répondre à ces objectifs. Donc ces règles techniques-là, donc elles sont au nombre de 14 aujourd'hui, qui partent du moment où on réceptionne tous les documents pour faire l'analyse de risque, dans le repérage amiante avant travaux, jusqu'à la restitution des locaux, avec une règle technique spécifique aux installations fixes. On est en partenariat avec le CIRTA, où on se partage, on va dire, le travail. C'est ça. Donc le CEDRE aura 7 règles à rédiger et le CIRTA 7 règles. Voilà, donc le projet en fait est organisé en deux institutions, on va dire, internes, avec un groupe opérationnel mixte où on va discuter ensemble avec le CIRTA des points techniques, un COPIL qui sera là pour en fait diriger le projet, et ensuite un comité de suivi et de validation qui est constitué des différents institutionnels, donc la DGT, la DGS, voilà, des représentants de la maîtrise d'ouvrage public-privé, des représentants de diagnostiqueurs, de fédérations des assureurs, pour que l'ensemble des acteurs de la filière reconnaissent ces textes.
L'objectif aussi, c'est...
Bruno Janson, oui, pour le CIRTA, oui.
Pour le CIRTA, donc en collaboration avec CEDRE, l'objectif aussi, c'est d'emmener des documents techniques sur le terrain pour que les conducteurs de travaux, les encadrants techniques, les chefs de chantier, les encadrants de chantier aient des outils. Parce que comme on a énormément professionnalisé le métier, notamment sur le bilan hydraulique, qui est devenu quand même très technique, on a besoin d'outils pour que les équipes de terrain aient des documents uniformisés et que ça soit mis en pratique correctement. La difficulté qu'on a aussi, c'est que ce sont quand même beaucoup de règles qui sont soumises à interprétation et nous voulons justement éviter que l'interprétation soit la norme et on voudrait plutôt uniformiser pour que tout le monde ait un socle commun et ensuite, effectivement, chaque employeur aura son analyse de risque, mais au moins on aura un cadre.
Est-ce que ce n'est pas aussi un moyen aussi d'avoir une réponse aux appels d'offres à peu près équitable ? Parce qu'aujourd'hui, finalement, il pouvait y avoir des entreprises qui ne répondaient pas toutes de la même manière.
C'est sûr qu'avec une analyse de risque différente, vous avez des écarts de prix, vous avez des écarts de prestations. Et de toute façon, ce n'est pas bon pour la profession. Hein. Il faut aussi que des processus qui sont émissifs, on ne peut pas avoir des processus émissifs en niveau 1. Donc effectivement, c'est aussi d'alerter tout le monde en disant, bah voilà, le CIRTA et CEDRE ont travaillé sur des bonnes pratiques et que les maîtres d'ouvrage et que les entreprises puissent s'appuyer dessus et que quand on compare un chantier, on puisse comparer avec les mêmes choses.
Dominique Payen, je reviens aussi pour le PPBTP. Il y a aussi le projet CARTO. Là, on parle aussi de sous-section 4. Là, il y a des chantiers qui sont en cours et qui vont continuer d'ailleurs, je crois.
Tout à fait. Alors, effectivement, un petit rappel sur le projet CARTO, CARTO Amiens, qui a démarré en fait chez nous au niveau de notre conseil d'administration qui a voté effectivement en 2012, hein, juin 2012. Ça a démarré en 2014 parce qu'il a fallu préparer tout le, à la fois les aspects techniques et les aspects convention. Donc les conventions ont été signées en 2014. Une première convention, hein, parce que c'est un projet partenarial avec nos partenaires DGT INRS et des conventions, ça c'est la convention principale, convention mère, et des conventions filles avec l'ensemble des organisations représentatives du BTP, donc FFB, FNTP, CAPEB et les FENSCOP. Donc le ça a démarré vraiment en 2014 et ça a pris son envol, je dirais, vers 2015-2016, grâce notamment à l'arrivée des bailleurs sociaux qui nous ont amené des chantiers. Donc le but de ce projet initial, c'est effectivement de réaliser des mesures d'empoussièrement sur des chantiers de sous-section 4, donc sur des processus de travail. Hein, je rappelle un processus, un matériau, une technique, des protections collectives intégrés à ce couple. Donc parmi ces situations de travail les plus courantes du BTP en sous-section 4, de procéder à des mesurages. Donc il y a eu un premier rapport qui a été publié en octobre 2017, donc rapport en ligne, hein, accessible à tous. Donc il est sur notre site Prévention BTP, mais il est également présent sur les sites de nos partenaires, que je viens de citer auparavant, et un second rapport qui est sorti donc l'année dernière, donc qui est sorti en avril-mai 2019. Et un troisième rapport devrait sortir en 2020. Alors, pour sortir les rapports CARTO, on s'est fixé avec nos partenaires une obligation, c'est-à-dire que pour publier des résultats sur un couple matériaux techniques protection collective, c'est d'avoir au minimum 10 mesures. Donc, pour certains, on a largement dépassé. Pour d'autres, on n'y est pas encore. Donc, nous n'avons publié que les résultats obtenus avec 10 mesures.
Il y a combien de résultats en tout qui ont été...
Alors, actuellement, on est à environ 300 mesures au total. Hein, et on continue, bien évidemment. Donc, ce n'est plus un projet. Maintenant, c'est bien devenu une campagne routinière. Donc, on s'apprête à élaborer une convention, une nouvelle convention en 2020, à la fois une convention mère avec nos partenaires que je viens de citer, plus la CNAM, et bien sûr des conventions filles avec l'ensemble des organisations professionnelles du BTP. Et la suite de CARTO, c'est que donc vous trouverez dans les rapports que je viens de citer donc toutes les informations sur les mesurages, mais aussi sur les moyens de prévention mis en œuvre, puisque pour obtenir un résultat, il y a derrière toute une mesure de prévention qui sont mises en place. Donc en fait, ces mesures de prévention, ces mesurages ne font que valider des bonnes pratiques. Et derrière, donc, on est en train de rédiger des règles de l'art pour les situations de travail pour lesquelles on a au moins 10 mesures. Et courant 2020, premier trimestre, premier semestre 2020, on sortira des règles de l'art sous section 4 par rapport à 6 situations pour lesquelles on a suffisamment de mesures.
Alexandre Printignac pour la FFB, finalement... On peut se poser la question, mais comment font les entreprises pour arriver à suivre, parce que finalement, il y a des nouvelles cas d'usage qui n'arrêtent pas, des nouvelles réglementations aussi qui s'imposent aux entreprises. Et ça, c'est dans le bienfait aussi de la protection à la fois des travailleurs et des habitants. Mais est-ce que c'est pas compliqué aujourd'hui pour les entreprises d'arriver à suivre toute cette réglementation?
Oui, tout à fait. Maintenant, on a au sein de la FED différentes diffusions. Donc, j'en parlais tout à l'heure, l'info réseau, la clause de vie. Dans le cadre de nos réunions, on a aussi la possibilité de diffuser. Donc, moi, dans le cadre du service, c'est plutôt des appels que je reçois ou des mails ou des échanges avec les entreprises qui, en effet, rencontrent de leurs difficultés. Et en effet, lorsqu'il s'agit, on leur fournit un certain nombre de réponses et on les rattache au projet Carto, donc au rapport. On n'hésite pas à les transmettre, à les envoyer, à les fiches travaux qui ont été faites, ou de se rapprocher auprès de l'OPPTP pour en effet crédibiliser leur réflexion, mettre en avant des modes opératoires les plus satisfaisants possibles. Donc en fait, c'est un partenariat, même dans le cadre des échanges, que ce soit téléphonique, par mail, on n'hésite pas à faire des renvois à ce qui existe et aux supports qui ont déjà été mis sur les sites internet et qui sont accessibles publiquement.
Est-ce qu'il n'y a pas des entreprises, finalement, des filières qui sont plus impactées ou plus sensibilisées que d'autres ?
Il y a des métiers où, en effet, les plombiers, les électriciens, voilà, je pense que globalement, presque toutes les entreprises dans le domaine du bâtiment sont toutes absolument concernées par cette problématique amiante. On a besoin de précision sur leur métier avant de pouvoir leur répondre et leur apporter des réponses. Donc c'est vrai que oui, globalement, oui, toutes les entreprises actuellement sont toutes concernées par cette problématique amiante. On a besoin par contre de précision avant de les rattacher au projet Carto et aux différentes diffusions qui ont été faites.
Lionel Jeannot, pour la FIDI, est-ce que aujourd'hui les entreprises viennent voir les opérateurs de repérage pour travailler avec eux?
On a un peu tous les cas, c'est-à-dire que on a évidemment les maîtres d'ouvrage, les donneurs d'ordre qui demandent les repérages avant les travaux, et aussi par le biais des différentes formations qu'on peut suivre, notamment dans le cadre de la sous-section 4, des différentes entreprises qui vont intervenir dans le cadre du suivi, de l'entretien, de la maintenance des immeubles, ascenseuristes, plombiers, entreprises de ravalement, commencent à avoir le réflexe de demander le document au maître d'ouvrage, qui peut l'avoir ou ne pas l'avoir, ou le donner ou ne pas le donner. Bon, là, après, et ça se met en place. C'est-à-dire qu'on sent une évolution très nette entre il y a quelques mois et maintenant, où on sent pratiquement un réflexe parce que les intervenants dans les entreprises du bâtiment sont au courant et ont pris conscience du risque. Et généralement, dans beaucoup d'entreprises, on voit, pour les avoir croisés moi-même, beaucoup de personnels formés sous section 4. Donc, ils ont le réflexe et demandent le document. Et le maître d'ouvrage, finit par le faire au dernier moment ou le donner quand il est fait.
Oui, il apparaît pour le CEDRE. Finalement, est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas améliorer, il n'y a pas encore des marges de progression pour améliorer la collaboration entre les acteurs de la filière ça commence par le maître d'ouvrage, hein.
Tout à fait. C'est une de nos missions, justement. C'est d'améliorer la communication et aussi les échanges entre les entreprises, la maîtrise d'ouvrage, mais aussi les autres acteurs. Et ça passe par des conférences comme celle-ci, des communications. Mais en effet, on croit à l'amélioration de l'ensemble, en fait, de la profession, en favorisant les échanges et en déployant aussi certains supports techniques, hein, qui servent aussi de base pour la sensibilisation des différents acteurs.
Bruno Janson pour le CIRTA, finalement, au-delà du bâtiment, si on regarde un peu ce qui se passe sur les voiries, sur les réseaux, est-ce qu'aujourd'hui les maîtres d'ouvrage aussi sont actifs sur ces sujets ?
Oui, de plus en plus, on le voit, parce que il y a quelques années, il n'y avait pas de désamiantage de voirie, tout simplement. Je voudrais aussi rappeler l'importance du maître d'œuvre. Parce qu'on dit tout le temps le maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, il s'appuie sur un sachant qui est un maître d'œuvre. Et ce sont ces gens-là aussi qui poussent à ce que les chantiers, il y ait la sous-section 4, ou qu'il y ait un meilleur repérage, etc. Donc c'est très important de faire ces conférences, de sensibiliser vraiment l'ensemble de la chaîne pour que les choses soient faites correctement. Donc on voit une nette amélioration, c'est vrai, de la FIA.
Oui, parce qu'il y a les maîtres d'œuvre qui interviennent. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, sur des chantiers qui deviennent un peu complexes, il faut des assistants à maîtrise d'ouvrage aussi qui sont spécialisés en amiante ?
À titre personnel, oui, moi je plaide pour ça. Il y a des grandes discussions au sein du CIRTA pour ça, mais aujourd'hui, la différence d'un chantier fait avec un maître d'œuvre amiante ou un assistant maître d'ouvrage amiante ou démolition, moi, je vois nettement la différence, oui.
Lionel Jeannot pour la FIDI.
C'est vrai qu'en fonction de la complexité des chantiers et l'intervention d'un spécialiste de l'amiante, enfin un maître d'œuvre amiante ou un AMO amiante, d'une part permet d'aiguiller, et c'est son boulot, le maître d'ouvrage sur les repérages à faire, d'être précis, et dès le départ, ça veut dire que la chaîne commence bien. Parce que la grosse problématique qu'on voit souvent, c'est que les repérages sont demandés rapidement, les opérations sont faites, mais vont peut-être pas correspondre toujours au périmètre des travaux. Ce qui fait que l'entreprise qui va intervenir sur des locaux, des pièces ou des morceaux d'ouvrages qui n'auront pas fait l'objet d'investigations. Et du coup, ça va commencer à compliquer le chantier avec des échanges qui ne vont pas être positifs. En revanche, si la mission est bien prévue, alors si le maître d'ouvrage maîtrise ou s'il est assisté sur des grosses opérations par un AMO amiante ou un maître d'œuvre amiante, les choses se passeront quand même relativement mieux. Et c'est vrai que, d'une façon générale, dans l'accompagnement des opérations de repérage et puis après dans le suivi, ça se passe, c'est beaucoup plus fluide. Et ça ne coûte pas forcément plus cher.
Oui, tout à fait. Puis juste en plus, nous, en tant qu'entreprise de désamiantage, lorsqu'il n'y a pas de maître d'œuvre ou d'assistant, on ne peut pas être jugé parti. Donc c'est-à-dire que dès qu'on va commencer à dire que le diagnostic est mal fait ou qu'il faudrait faire ci, qu'il faudrait faire ça, forcément, il y a suspicion éventuelle du maître d'ouvrage en disant est-ce qu'il le fait pour avoir des travaux supplémentaires ou pour me coûter plus cher, etc. Que lorsqu'il y a un intermédiaire, on n'a pas ce genre de problème. Et même pour nous, pour faire les travaux, c'est plus simple d'avoir quelqu'un qui va piloter le chantier et qui va peut-être aussi contredire l'entreprise et qui va surtout conseiller le maître d'ouvrage. En tant qu'entreprise, c'est beaucoup plus facile.
Oui, là, pareil pour le CEDRE, finalement, est-ce qu'il n'y a pas une limite aussi c'est-à-dire à partir de quand on fait intervenir un AMO Est-ce que aujourd'hui, finalement, vous avez plutôt des entreprises qui sont plutôt des grosses entreprises? Est-ce qu'elles interviennent systématiquement avec un AMO ou pas?
Alors, les adhérents du CEDRE ne sont pas que des grandes entreprises, c'est aussi des petites et moyennes entreprises. La question, si je comprends bien, c'est à partir de, comment dire, de quel moment il y a, je pense qu'il y a
besoin d'un AMO ou d'un maître d'œuvre.
Alors, moi, je dirais. Alors, du moment que la maîtrise d'ouvrage sent qu'elle est à la limite de ses compétences, parce que parfois, et selon l'envergure du chantier, de la complexité des travaux, la maîtrise d'ouvrage, alors c'est ce que je dirais tout à l'heure aussi, hein, qu'elle est responsable de sa propre analyse de risque, et si elle constate qu'elle est arrivée à sa limite, c'est peut-être effectivement le moment de se faire assister ou d'avoir un maîtrise d'œuvre qualifié, certifié et aussi assuré pour le montant des travaux qu'elle envisage.
Et Dominique Payen, pour l'OPP-BTP, est-ce que les maîtrises d'ouvrage viennent vous voir, vous, à l'OPP-BTP aussi, pour les accompagner?
Alors, effectivement, j'ai repris tout à l'heure l'exemple des bailleurs sociaux qui sont venus donc au travail du projet Carto.
C'est l'USH, c'est ça?
Alors, l'USH et d'autres, hein, mais effectivement, l'USH étant le chapeau un peu de ces maîtres d'ouvrage. Donc, effectivement, ils se sont beaucoup investis dans Carto Amiante pour proposer des chantiers, mais aussi pour leurs propres salariés, puisque certains bailleurs sociaux non seulement font appel à des entreprises du BTP pour certaines prestations, mais ont aussi en régie leurs propres travailleurs. Donc, ils avaient effectivement un double avantage. Donc, je prends cet exemple-là parce que c'est celui qui est le plus concret, mais d'autres maîtres d'ouvrage viennent vers nous, bien évidemment, pour avoir des renseignements sur la façon de gérer leur chantier, de s'organiser. Et moi, j'ai l'habitude de dire qu'un problème bien posé est à moitié résolu. Et un problème bien posé, c'est effectivement un assistant maître d'ouvrage, un maître d'œuvre, un coordonnateur SPS. Donc tout ça, ça se planifie en amont, le plus en amont possible au niveau du projet avance au maire. Donc voilà, donc c'est un petit peu l'organisation du chantier en amont qui fera que ce chantier se passera bien et que la chaîne des différents acteurs fonctionnera bien. Parce qu'on a tous intérêt à ce qu'il y ait des délais respectés, des coûts respectés, et éviter d'exposer les salariés au travers de divers problèmes.
Pour Alexandre Printignac, pour la FFB, est-ce que aussi, ça c'est aussi un enjeu, on parlait de coûts, il faut que les entreprises travaillent de la même manière et finalement poussent cette réglementation aussi de la même manière, et ça peut être un sujet qui est un peu délicat, mais qui est une limite dans l'équité, dans la réponse aux appels d'offres.
Oui, tout à fait, mais il faut savoir que c'est vrai que les petites entreprises que nous avons, entre autres à la FED, maîtrisent leur métier. C'est vrai que d'intégrer une problématique de risque amiante sans avoir véritablement connaissance de l'ensemble des matériaux et de cette réglementation qui, dans le cadre du repérage, est très ancienne, c'est extrêmement complexe, ne serait-ce que dans le cadre de l'arrêté qui vient d'être publié cet été. La notion de dispense, la notion de notamment ou concerné ou directement ou inconsciemment concerné. Voilà, il y a pas mal de répercussions de cet arrêté réglementaire qui ne sont pas forcément faciles à aborder par les petites entreprises qui interviennent. Et c'est la raison pour laquelle on les accompagne. Maintenant, cette notion de coût est aussi un fort impact. Une entreprise qui intervient pour des petits travaux, l'intégration du risque amiante, ses exigences de repérage, etc., sont très compliquées à mettre dans les devis et à crédibiliser leurs actions et leurs besoins qui résultent de l'intégration de cette problématique amiante.
Donc, voilà. Voilà, donc je crois qu'on peut arrêter là la table ronde, on peut les applaudir. Merci à tous, vous pouvez les applaudir. Merci pour ce tour d'horizon, vous pouvez aller vous rasseoir. Ce tour d'horizon sur l'amiante, effectivement, ce qui est rassurant, c'est qu'on voit qu'il y a quand même encore beaucoup de choses à dire et à faire sur ce sujet.